Portée sur un coussin, la couronne et le sceptre d'Angleterre s'élevaient lentement, marche par marche, dans l'étroit escalier du type de Kenilworth. Derrière, les mitres oscillaient et les pierreries des crosses scintillaient dans la pénombre. Les évêques, retroussant sur leurs chevilles, leurs trois robes brodées se hissaient dans la tour. Le roi, sur un siège qui, d'être unique, faisait figure de trône, attendait au fond du gigantesque hall, le front dans la main, le corps affaissé entre les piliers qui soutenaient les arcs ogives pareils à ceux des cathédrales. Tout ici avait des proportions inhumaines. Le jour pâle de janvier qui tombait par les hautes et très étroites fenêtres ressemblait à un crépuscule. Le comte de Lancastre, la tête penchée, se tenait debout à côté de son cousin, en compagnie de trois serviteurs qui n'étaient même pas ceux du souverain. Les murs rouges, les piliers rouges, les arcs rouges composaient autour de ce groupe un tragique décor pour la fin d'une puissance. Lorsqu'il vit apparaître par la porte à deux battants ouvertes, puis avancer vers lui cette couronne et ce sceptre, qui lui avaient été amenés pareillement 20 ans plus tôt sous les voûtes de Westminster, Édouard se redressa sur son siège, et son menton se mit à trembler un peu. Il leva les yeux vers son cousin de Lancastre comme pour chercher appui, et Torscol détourna le regard tant cette supplication muette était insupportable. Puis Orleton fut devant le souverain. Orleton, dont chaque apparition depuis quelques semaines avait signifié à Édouard la confiscation d'une partie de son pouvoir. Le roi regarda les autres évêques et le grand chambellan. Il fit un effort de dignité pour demander « Qu'avez-vous à me dire, mes lords ?» Mais la voix se formait mal sur les lèvres pâlies parmi la barbe blonde. L'évêque de Winchester lut le message par lequel le Parlement sommait le souverain de déclarer sa renonciation au trône ainsi qu'à l'hommage de ses vassaux, de donner agrément à la désignation de son fils et de remettre aux envoyés les insignes rituels de la royauté. Quand l'évêque de Winchester se fut tu, Édouard resta silencieux un long moment. Toute son attention semblait fixée sur la couronne. Il souffrait, et sa douleur était si visiblement physique, si profondément marqué sur ses traits, que l'on pouvait douter qu'il fût en train de penser. Pourtant, il dit « Vous avez la couronne en vos mains, mes lords, et me tenez à votre merci. Faites donc ce qu'il vous plaira, mais de par mon consentement, point. » Alors Adam Orleton avança d'un pas et déclara « Sire Édouard, le peuple d'Angleterre ne vous veut plus pour roi, et son parlement nous envoie vous le déclarer. » Mais le Parlement accepte pour roi votre fils aîné, le duc d'Aquitaine, que je lui ai présenté, et votre fils ne veut accepter sa couronne que de votre gré. Si donc vous vous obstinez au refus, le peuple sera libre de son choix et pourra bien élire pour souverain prince celui parmi les grands du royaume qui le contentera le plus, et ce roi pourra n'être point de votre lignage. Vous avez trop mis trouble à vos états, après tant d'actes qui leur ont nui. C'est le seul, à présent, que vous puissiez accomplir pour leur rendre la paix. » De nouveau, le regard d'Édouard s'éleva vers Lancastre. Malgré le malaise qui l'envahissait, le roi avait bien compris l'avertissement contenu dans les paroles de l'évêque. Si l'abdication n'était pas consentie, le Parlement, dans son besoin de se trouver un roi, ne manquerait pas de choisir le chef de la rébellion, Roger Mortimer, qui possédait déjà le cœur de la reine. Le visage du roi avait pris une teinte cireuse, inquiétante. Le menton continuait de trembler, les narines se pinçaient.
Monseigneur Orleton a justement parlé, dit Torscol. Et vous devez renoncer, mon cousin, pour rendre la paix à l'Angleterre et pour que les Plantagenets continuent d'y régner.
Édouard, alors incapable apparemment d'articuler une parole, fit signe d'approcher la couronne et inclina la tête comme s'il voulait qu'on le saignît une dernière fois. Les évêques se consultaient du regard, ne sachant comment agir ni quel geste accomplir, en cette cérémonie imprévue qui n'avait point de précédent dans la liturgie royale. Mais la tête du roi continuait de s'abaisser graduellement vers les genoux.
« Il passe !» s'écria soudain l'archidiacre Chandos, qui portait le coussin aux emblèmes.
Torscol et Orleton se précipitèrent pour retenir Édouard évanoui au moment où son front allait cogner sur les dalles. On le remit dans son siège, on lui frappa les joues. On courut chercher du vinaigre. Enfin, il respira longuement, rouvrit les yeux, regarda autour de lui, puis d'un coup il se mit à sangloter. La mystérieuse force que l'onction et les magies du sacre infusent au roi, et pour ne servir parfois que des dispositions funestes, venait de se retirer de lui. Il était comme exorcisé de la royauté. À travers ses pleurs, on l'entendit parler.
« Je sais, mes lords, je sais que c'est par ma propre faute que je suis tombé à si grande misère et que je me dois résigner à la souffrir. Mais je ne puis m'empêcher de ressentir lourd chagrin de toute cette haine de mon peuple que je ne haïssais point. Je vous ai offensé, je n'ai point agi pour le bien. Vous êtes bon, mes lords, très bon de garder dévouement à mon aîné fils, de n'avoir point cessé de l'aimer et de le désirer pour roi. Donc, je veux vous satisfaire. Je renonce devant vous à tous mes droits sur le royaume. Je délie tous mes vassaux de l'hommage qu'ils m'ont fait et leur demande le pardon. Approchez. »
Et de nouveau, il fit le geste d'appeler les emblèmes. Il saisit le sceptre et son bras fléchit comme s'il en avait oublié le poids. Il le remit à l'évêque de Winchester en disant
« Pardonnez, my lord. Pardonnez les offenses que je vous ai faites. »
Il avança ses longues mains blanches vers le coussin, souleva la couronne, y appuya ses lèvres comme on baise la patène, puis, la tendant à Adam Orleton,
« Prenez-la, my lord, pour en cindre mon fils, et accordez-moi pardon des maux et injustices que je vous ai causés. Dans la misère où je suis, que mon peuple me pardonne, priez pour moi, my lord, qui ne suis plus rien. »
Tout le monde était frappé de la noblesse des paroles. Édouard ne se révélait roi qu'à l'instant où il cessait de l'être. Alors, Sir William Blount, le grand chambellan, sortit de l'ombre des piliers, s'avança entre Édouard II et les évêques, et brisa sur son genou son bâton sculpté, comme il l'eût fait pour marquer que le règne était terminé, devant le cadavre d'un roi descendu au tombeau.